Pourquoi devons-nous revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit? Premier épître de Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. La raison pour laquelle nous devons revenir du symbole de Nicée à l'évangile de l'eau et de l'esprit. La question « Pourquoi devons-nous revenir du symbole de Nicée à l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» ne découle pas d'une simple suggestion de modifier légèrement une doctrine, mais d'un appel urgent selon lequel nous devons recouvrer l'essence même de l'évangile. Ce problème n'est pas une affirmation destinée à ébranler les traditions de l'Église, mais un appel à revenir à la réalité du salut dont la Bible témoigne depuis le tout début. Le symbole de Nicée a joué un rôle historiquement vital en proclamant clairement que Jésus est le vrai Dieu et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de la même essence. Grâce à ce credo, l'Église a pu défendre la divinité de Jésus-Christ et établir clairement le fondement de la foi connue sous le nom de Trinité. Cependant, le symbole de Nicée nous dit seulement qui est Jésus. Il reste silencieux sur la manière dont il a pris sur lui les péchés du monde. La structure centrale du salut, quant et de quelle manière le péché a été transféré à Jésus, n'y est pas expliquée. Dans ce vide, l'évangile de l'Église a progressivement dérivé vers une direction qui ne mettait l'accent que sur la croix, et une compréhension de l'expiation sans la réalité du transfert du péché, une repentance répétitive et une conscience d'un salut incomplet en sont venus à occuper le centre de la foi. Pourtant, le salut dont témoigne la Bible a eu la structure de l'eau et de l'esprit depuis le tout début. Jésus a réellement pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain, et pour ces péchés qu'il avait pris sur lui, il a été jugé sous la justice de Dieu sur la croix, et le Saint-Esprit témoigne de l'accomplissement de tout ce salut. Cet évangile n'est pas une série d'événements déconnectés, mais un seul flux connecté de salut, et c'était la forme originelle du salut que l'Église primitive croyait et prêchait. Ce n'est qu'au sein de cette structure, où l'eau, le sang et l'esprit témoignent comme un seul, que l'évangile devient complet. Aujourd'hui, de nombreux croyants, dans leur vie de foi, se retrouvent constamment confrontés aux mêmes questions. Pourquoi ai-je encore l'impression d'être un pécheur? Pourquoi, même après m'être repenti à plusieurs reprises, n'ai-je aucune assurance que ma conscience a été purifiée? Pourquoi mon assurance du salut vacille-t-elle? La raison n'est pas compliquée. C'est parce qu'ils ne savent pas, et ne peuvent donc pas croire, quand leurs péchés ont été transférés à Jésus. La Bible déclare qu'il existe une méthode claire pour l'imputation du péché. Dans l'Ancien Testament, le péché était transféré à l'offrande sacrificielle par l'imposition des mains, et dans le Nouveau Testament, le baptême de Jésus est l'événement qui est apparu comme la réalité de la loi sacrificielle de l'Ancien Testament. Une croix sans le baptême peut reconnaître le jugement, mais elle ne connaît ni ne peut expliquer comment les péchés ont été transférés. En conséquence, un évangile duquel le baptême est absent fait que les gens restent dans une conscience du péché toute leur vie. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, naître de nouveau n'est pas un concept abstrait, mais un événement réel. Jésus a clairement déclaré que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, l'eau n'est pas un symbole ou une métaphore, mais fait référence à l'événement réel du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Ce n'est que lorsqu'on croit à cet évangile que l'effacement des péchés est accepté non pas comme une doctrine comprise avec la tête, mais comme un fait, ce n'est qu'alors que la conscience est réellement lavée, et que l'identité du croyant est transférée de celle d'un pécheur à celle d'un juste. Ce n'est pas une expérience de nouvelle naissance qui est simplement répétée en paroles, mais la réalité du salut qui a été accomplie dans l'histoire. Par conséquent, la restauration dont nous parlons ne consiste pas à nier le symbole de Nicée. C'est plutôt un appel à revenir à l'évangile que les apôtres prêchaient avant le symbole de Nicée, c'est-à-dire à la forme originelle du salut dont témoigne la Bible. La doctrine de la Trinité nous dit qui est Dieu, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit complète la manière dont ce Dieu nous a sauvés. Si le symbole de Nicée est le cadre de la foi, alors on peut dire que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le sang et la vie qui coulent à l'intérieur de ce cadre. En fin de compte, la raison pour laquelle nous devons revenir du symbole de Nicée à l'évangile de l'eau et de l'esprit est claire. C'est parce que la Bible témoigne clairement de l'événement réel de l'imputation du péché, dont ce credo ne parle pas, et parce que seul cet évangile transfère réellement une personne de l'état de pécheur à celui de juste. Ce n'est pas une affirmation visant à créer une nouvelle doctrine, mais une restauration de l'évangile que l'Église primitive croyait et prêchait, et un retour à l'essence. La différence entre l'évangile de l'Église primitive et l'évangile post-nicéen. La différence entre l'évangile de l'Église primitive et l'évangile post-nicéen ne découle pas d'une simple différence d'accent, mais d'une différence dans la structure même de la compréhension du salut. L'évangile que prêchait l'Église primitive était l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'était un évangile qui témoignait du processus entier du salut comme un flux d'événements réels. D'autre part, l'Église post-nicéenne, dans le processus d'organisation de la doctrine centrée sur les credos, a procédé dans la direction de la conceptualisation et de la systématisation de l'Évangile. Au centre de l'Évangile de l'Église primitive, la structure du salut qui commence par le baptême de Jésus était clairement située. En recevant le baptême de Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain, Jésus a réellement pris sur lui les péchés du monde, a été jugé pour ce péché imputé sur la croix sous la justice de Dieu, et par le témoignage de la résurrection et de l'Esprit, a proclamé que le salut était accompli. Cet évangile était un salut accompli une fois pour toutes, dans lequel le baptême, la croix, la résurrection et l'Esprit sont reliés comme un seul, et les croyants, en croyant ce fait, vivaient comme ceux qui demeurent dans le salut déjà accompli. Cependant, l'évangile post-nicéen a été progressivement réorganisé en une structure doctrinale centrée sur la croix. Le baptême de Jésus n'a pas été traité comme un événement central de la rédemption, mais comme un exemple d'obéissance ou une scène secondaire, et l'explication de quand et comment le péché a été transféré à Jésus a disparu du centre de l'Évangile. En conséquence, la croix a été soulignée, mais elle s'est établie comme une expiation dépourvue du processus réel de l'imputation du péché, et le salut a commencé à être perçu non pas comme un événement déjà accompli, mais comme un état qui doit être continuellement maintenu. Cette différence est aussi clairement révélée dans la compréhension du Saint-Esprit. Dans l'Église primitive, le Saint-Esprit était celui qui témoigne et confirme le salut que Jésus a accompli, et celui qui demeure dans les croyants, leur donnant audace et assurance. D'autre part, dans la structure de foi après Nicée, le Saint-Esprit a été souvent réduit à une expérience émotionnelle ou à un rôle accessoire qui aide à la vie de foi. En conséquence, le centre d'intérêt de la foi s'est aussi déplacé de la foi dans le fait du salut à l'examen de l'état de sa propre foi. La norme de l'interprétation biblique a aussi changé. L'Église primitive interprétait la Bible en se centrant sur le témoignage des apôtres et les événements réels, et comprenait le tabernacle, les sacrifices et le jour des expiations de l'Ancien Testament comme la réalité au sein du ministère de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus était accepté comme l'événement qui accomplissait la manière dont le péché était imputé par l'imposition des mains dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Cependant, après Nicée, alors que les credos et les systèmes doctrinaux devenaient la norme d'interprétation, l'Ancien Testament a fini par être traité principalement au niveau des symboles ou des leçons éthiques. Cette différence dans la compréhension de l'Évangile a directement influencé l'identité du croyant et les résultats de la foi. Les croyants de l'Église primitive se reconnaissaient comme des justes, une nouvelle création, et comme ceux qui se tiennent dans le sanctuaire de Dieu. Leur repentance n'était pas une condition pour obtenir le salut, mais un fruit de la vie le reconnaissant au sein du salut déjà reçu. La conscience était dans un état d'avoir été purifié, et les fruits de la foi apparaissaient comme audace et assurance, liberté et gratitude. D'autre part, dans la structure de foi post-nicéenne, le croyant en est venu à se définir comme étant encore un pécheur, et la repentance est devenue une condition répétitive pour obtenir l'élimination du péché. En conséquence, la conscience était continuellement accusée, et la foi en est venue à rester dans la peur et l'anxiété, et l'auto-examen constant. En fin de compte, on peut dire que l'Église primitive était une Église qui prêchait clairement quand le péché a été transféré à Jésus, tandis que l'Église post-nicéenne était une Église qui a transformé l'Évangile en doctrine centrée sur qui est Jésus. Comme l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a disparu, l'assurance claire de l'élimination du péché est aussi devenue floue avec lui. Ce que l'Église post-nicéenne a perdu n'était pas la croix elle-même, mais le baptême de Jésus qui était avant la croix, c'est-à-dire l'événement réel de l'imputation du péché. Restaurer ce fait est le chemin même pour revenir à l'évangile de l'Église primitive. L'évangile de l'Église primitive, l'évangile de la Réforme et l'évangile de l'Église moderne. Si nous examinons l'évangile de l'Église primitive, l'évangile de la Réforme et l'évangile de l'Église moderne dans un même flux, nous pouvons clairement confirmer que l'histoire de l'Église n'est pas un simple processus de développement, mais un processus dans lequel la structure de l'Évangile a été progressivement modifiée et réduite. La différence entre ces trois époques va au-delà de la différence de contexte historique et est directement liée à la question de savoir comment le salut était compris et avec quelle identité le croyant en est venu à vivre. L'Église primitive était une Église bâtie sur le témoignage direct des apôtres. Le centre de l'Évangile qu'ils prêchaient était l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et le salut était proclamé comme une succession d'événements qui se sont réellement produits. Ils prêchaient que Jésus a pris sur lui le péché du monde en une seule fois en recevant le baptême de Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain, qu'il a résolu ce péché imputé sur la croix sous le jugement de Dieu, et que le salut a été accompli par la résurrection et le témoignage de l'Esprit. Cet évangile était l'événement qui accomplissait le tabernacle, les sacrifices et le jour des expiations en tant que réalité, et les croyants vivaient dans l'audace et la liberté, se reconnaissant comme des justes et une nouvelle création demeurant au sein du salut déjà accompli. La repentance n'était pas une condition pour obtenir le salut, mais un fruit qui naissait naturellement dans la vie après le salut, et la conscience se tenait devant Dieu dans un état d'avoir été purifié. La Réforme a surgi au milieu d'une forte réaction contre le cléricalisme et le salut par les œuvres de l'Église catholique médiévale. L'Évangile de cette époque se résumait en une doctrine de la justification centrée sur la croix, et la vérité d'être déclaré juste par la foi était puissamment proclamée. Cependant, dans ce processus, parce qu'ils ont aussi hérité de la foi du Credo de Nicée telle qu'elle, la structure de l'imputation du péché inhérente au baptême de Jésus n'a pas été suffisamment expliquée et a été écartée comme un événement symbolique. Le salut était toujours traité comme important, mais sa structure se concentrait sur des explications juridiques et doctrinales plutôt que sur le déroulement des événements. En conséquence, l'identité du croyant a été placée dans la tension d'être juste et pécheur en même temps, et la repentance a pris sa place comme un moyen de maintenir la foi. Bien qu'il y eût une certaine paix dans la conscience, une limite demeurait pour atteindre l'assurance que le péché était complètement lavé. L'Église moderne, tout en s'appuyant sur les doctrines établies après la Réforme, a, dans le courant de l'époque, popularisé la foi et l'a reconstruite en la centrant sur l'émotion et l'expérience. L'Évangile parle toujours de la croix, mais sa signification a été plus souvent consommée comme un symbole d'inspiration, de sacrifice et d'amour, plutôt que comme la structure du transfert du péché et du jugement. Le baptême de Jésus n'est presque jamais mentionné, et le concept même du transfert du péché a disparu du langage de la foi. Le Saint-Esprit en est venu à être compris comme une source d'expérience émotionnelle ou de puissance, plutôt que comme celui qui rend témoignage au salut, et l'interprétation biblique a également dérivé vers une direction subjective et pragmatique. En conséquence, le salut a été perçu comme étant dans un état constamment vacillant, et le croyant est resté dans la conscience d'être encore un pécheur, demeurant dans une repentance répétitive et une auto-vérification. L'Église, elle aussi, en est venue à se concentrer sur les programmes, la croissance et la performance plutôt que sur la proclamation de l'Évangile. Si nous synthétisons le flux de ces trois époques, on peut dire que l'Église primitive prêchait l'Évangile accompli comme un événement, la Réforme a organisé cet Évangile en doctrine tout en omettant le baptême de Jésus, tout comme le catholicisme l'avait fait. Et l'Église moderne a réduit même cette doctrine à l'émotion et à l'expérience. Dans ce processus, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire l'événement par lequel le péché a été réellement transféré sur Jésus, est progressivement devenu obscur dans l'histoire. Ce dont l'Église a besoin maintenant, ce n'est pas d'un nouveau mouvement ou d'une autre forme de foi. C'est de revenir à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que l'Église primitive croyait et prêchait. C'est en effet la Réforme finale qui reste encore à accomplir même 500 ans après la Réforme, et c'est le moyen de restaurer l'essence de l'Évangile. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le salut complet prêché par l'Église primitive. Chers saints, nous nous tenons aujourd'hui devant une question très fondamentale que nous devons poser à nouveau. C'est la question : suis-je vraiment une personne qui a été complètement sauvée du péché ? Beaucoup de gens confessent qu'ils croient en Jésus, s'attachent à la croix, offrent des prières de repentance et vivent une vie de foi au sein de l'Église. Cependant, au fond de leur cœur, une question inexpliquée demeure toujours. C'est la question de savoir pourquoi je me sens toujours comme un pécheur, pourquoi ma conscience n'est pas complètement en paix, et pourquoi mon assurance du salut vacille. Ce n'est pas un problème qui survient parce que la foi d'un individu est faible, mais un problème qui s'est produit parce qu'ils n'ont pas pleinement entendu la structure de l'Évangile. Par conséquent, aujourd'hui, nous avons l'intention d'examiner clairement non pas les doctrines des hommes, mais l'Évangile exactement tel qu'il est dans la Bible, celui que l'Église primitive croyait et prêchait, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le point de départ du salut dont parle la Bible est le baptême de Jésus. La toute première chose que Jésus a faite alors qu'il commençait son ministère public fut l'événement de son baptême par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. De nombreuses églises expliquent cette scène comme un exemple de l'humilité ou de l'obéissance de Jésus, ou comme ayant pour but de nous montrer le modèle du baptême. Cependant, la Bible rend un témoignage beaucoup plus clair que cela. Jean-Baptiste a désigné Jésus et l'a proclamé comme « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Cela signifie que le péché a été transféré sur Jésus réellement, et non symboliquement. Cette structure était déjà clairement établie dans l'Ancien Testament. Le péché est transféré sur le sacrifice par l'imposition des mains, et le péché transféré est jugé par l'effusion de sang. Jean-Baptiste n'était pas un simple prophète, mais le dernier souverain sacrificateur qui a poursuivi la lignée d'Aaron, et le moment où Jésus a été baptisé par lui fut le moment où le péché de l'humanité a été officiellement transféré sur Jésus. Le baptême est précisément le transfert du péché, et c'est le point de départ du salut. Alors, qu'est-ce que la croix ? La croix n'est pas un vague symbole d'amour, et elle ne se limite pas à être une scène qui montre de manière émouvante le dévouement de Jésus. La croix est le juste jugement de Dieu sur le péché qui avait déjà été transféré sur Jésus. La Bible témoigne, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Ce qui importe ici, c'est l'ordre. Premièrement, le péché a été transféré à Jésus par le baptême, et ce péché a été jugé sur la croix. S'il n'y avait pas eu de baptême, qu'est-ce que la croix aurait jugé ? Par conséquent, l'évangile de la croix sans le baptême peut être capable de toucher le cœur des gens, mais il ne peut pas résoudre complètement le problème du péché. L'Église primitive ne prêchait pas seulement la croix. Elle prêchait le baptême et la croix comme un seul événement de salut. Maintenant, nous devons examiner le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ est venu par l'eau et le sang, et que c'est l'Esprit qui rend témoignage de ce fait. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui opère de manière répétée l'effacement des péchés, mais celui qui confirme et témoigne du salut déjà accompli. C'est pourquoi la Bible déclare que nos cœurs ont été aspergés pour nous purifier d'une mauvaise conscience et que nos corps ont été lavés avec une eau pure. Lorsque nous croyons en cet évangile, nous ne sommes plus des pécheurs, mais des justes, de nouvelles créatures, et ceux qui sont déjà entrés dans le lieu saint. C'est le changement réel que l'évangile de l'eau et de l'esprit produit dans la vie d'un croyant. Chers saints, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de nouveaux programmes, ni d'expériences plus fortes. C'est la restauration de l'évangile que l'Église primitive croyait et prêchait. L'évangile qui commence au baptême de Jésus, s'accomplit sur la croix, et est confirmé par le Saint-Esprit, c'est précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous croyons cet évangile, la repentance ne devient pas un rituel répétitif pour obtenir l'effacement des péchés, mais le fruit de la vie, la foi ne devient pas angoisse, mais assurance, et nous en venons à vivre non comme des pécheurs, mais comme des justes. Maintenant, la question qui nous reste est claire. Nous devons nous demander si nous n'avons connu que la croix, ou si nous croyons en l'évangile complet qui inclut le baptême de Jésus. Dieu nous appelle encore aujourd'hui, nous disant de revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je prie au nom du Seigneur pour que vous viviez comme des enfants de Dieu, jouissant de la vraie liberté, de l'assurance et de la vie au sein de cet évangile.